tous qui passez ici, regardez et voyez s'il existe une douleur comparable à la douleur qui m'accable, moi que l'Éternel a châtié au jour de son ardente colère. Et lorsque j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi, dit le Seigneur. Vous avez reconnu là les paroles tirées du livre des Lamentations et de l'Évangile selon Jean. Frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui un vendredi mis à part, un vendredi saint. Nous nous souvenons que Jésus le Christ avait affronté la mort sur la croix pour notre salut. Hier, jeudi, nous l'avons contemplé à Gethsémané, en train de lutter seul dans la prière. Il ne pouvait même pas compter sur le soutien spirituel de ses amis. Il était en train de recevoir l'encouragement de la part d'un ange que le Père a envoyé pour le fortifier. Vraisemblablement, après minuit du jeudi, il est arrêté, et cette arrestation est faite au nom du grand prêtre Caïphe. Malchus exécute le mandat d'arrêt. La police du temple est renforcée d'une assistance militaire. Judas conduit la troupe. Il aborde immédiatement son maître et le trahit en l'embrassant. Du côté de Jésus, une autorité simple et calme, qui fait même reculer les hommes armés. Jésus est à cet instant abandonné de ses disciples. Il est livré aux mains de ses ennemis. Avant d'ouvrir les Écritures, demandons sa lumière au Seigneur, notre Dieu et notre Père. Prions. Dieu notre Père, rafraîchis notre mémoire à ta source. Par l'Esprit Saint, ouvre nos oreilles à cette parole d'Évangile. Ouvre nos cœurs au mystère de ton offrande. Ouvre nos esprits au sens de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Par lui, nous te prions. Amen. L'heure est proche. Dans la mort violente qui attend Jésus, dans cette mort de réprobation, dans cet assassinat, la souffrance atteint son comble. Ésaïe avait bien prophétisé l'innommable dans son chant dédié au mystérieux serviteur souffrant, qui est l'envoyé de Dieu, l'innocent et le persécuté jusqu'à la mort. Nous allons donc écouter Ésaïe 53, versets 1 à 12.
Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni l'allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions tous ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter et humilié, sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. On l'a emporté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels, une fois mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence, ni pratiqué la tromperie. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. S'il offre sa vie en offrande à la place des autres, alors il aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra clair. Il sera nourri par une forte expérience. Mon serviteur, le juste, obtiendra la justice pour une multitude de gens, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, c'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir. Il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs, il a pris sur lui les fautes d'une multitude de gens, et il va encore intervenir en faveur des coupables.
Prions. Seigneur, tu n'as pas élevé la voix, toi qui donnes la parole. Tu t'es laissé maltraiter par des hommes, toi qui donnes la vie à toute la création. Tu as été considéré comme un brigand, un blasphémateur, alors que tu es le rayonnement des pensées insondables du Père. Loué sois-tu pour ta miséricorde. Sois exalté pour ta fidélité qui t'a conduit jusqu'aux extrémités de la souffrance, afin que ta guérison nous rejoigne. Amen. Je vous invite à chanter à la suite du chant du serviteur, Homme de douleur.
cette épée complètement effacée par le sang précieux que le Christ versa, le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité.
On amène d'abord le Christ chez Anne, le beau-père du grand prêtre de cette année-là. Anne, sans même faire délier le captif, l'envoie chez son beau-fils, Caïphe. En hâte, prêtres, scribes et anciens s'y sont réunis. C'est le Sanhédrin, la haute cour du peuple juif. Les hommes de garde, en attendant l'interrogatoire, se jouent de Jésus, crachent sur lui, le soufflait en plein visage. Pendant ce temps, lui se tait. L'apôtre Jean, connu du grand prêtre, a introduit Pierre, qui avait suivi de loin dans la cour de la maison. Un grand feu y est allumé. Il fait froid en cette fin de nuit d'avril. Et c'est la scène du triple reniement de Pierre. Et à ce sujet, nous allons écouter Matthieu 26, 57 à 75.
Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où les spécialistes des Écritures et les anciens étaient assemblés. Pierre suivit Jésus de loin, jusqu'à la cour du palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage, même faux, contre Jésus, pour le mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de gens soient venus déposer de faux témoignages contre lui. Finalement, deux hommes se présentèrent et dirent : « Cet homme a déclaré, « Je peux détruire le temple de Dieu » et je le rebâtirai en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et dit à Jésus, « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi ?» Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit, « Au nom du Dieu vivant, je te demande de nous répondre sous serment. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui le dis. » Mais je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de celui qui est puissant et venir sur les nuées du ciel. À ce moment, le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Il a fait insulte à Dieu, nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre cette insulte faite à Dieu, qu'en pensez-vous ? » Ils répondirent, « Il est coupable et mérite la mort. » Puis, ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnèrent des gifles en disant, « Fais le prophète et devine, toi le Christ, dis-nous, qui t'a frappé ? » Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde en déclarant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Puis il s'en alla vers la porte de la cour. Une autre servante vit et dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre le nia de nouveau en déclarant, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et lui dirent, « Certainement tu es l'un d'eux. Ton accent révèle d'où tu viens. » Alors Pierre s'écria, « Que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement.
Prions encore. Seigneur, au jour de sa passion, ton Fils a subi les moqueries et les outrages. Il a été abandonné des siens et renié. Nous t'en prions, pardonne-nous de l'avoir renié nous aussi. Garde-nous d'avoir honte de lui qui a donné sa vie pour nous. Fortifie-nous dans ta grâce, afin que nous acceptions avec humilité et courage le combat auquel il nous convie. Nous te prions de nous exaucer pour l'amour de son nom. Amen. Aux premières lueurs du matin, le coq chante. Le Seigneur, toujours lié, traverse la cour à ce moment-là. Et s'étant retourné, il regarda Pierre. Et Pierre, bouleversé, se souvint de la parole de Jésus et étant sorti, il pleura amèrement. Quelques heures plus tard, ce même jour, Judas ira se pendre de désespoir. En effet, il se pend le jour où le Christ meurt pour sauver tous les hommes. Ah, si comme Pierre, il avait plutôt accueilli le regard de Jésus. Aussitôt qu'il fait jour, le Sanhédrin tient conseil. On essaye de se compromettre, ou plutôt on essaie de compromettre le rabbi par de fausses accusations, sans succès, parce que les témoins se contredisent. Finalement, la question est posée nettement. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et sur la réponse, « Tu l'as dit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Réponse claire, sans détour, empreinte d'une triomphale majesté, le verdict est prononcé avec précipitation et simulacre de scandale. C'est la mort. Il mourra parce qu'il est le Christ. Ils le condamneront et ils le livreront aux mains des gentils. De très bonne heure, on part chez le gouverneur romain. Et là, nous allons lire dans Matthieu 27, versets 11 à 31.
Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Et ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains, en présence de la foule, et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête.
Pilate voudrait n'avoir pas à juger ce cas. Mais les Juifs n'ont plus droit de vie et de mort depuis l'occupation. Le gouverneur interroge donc Jésus à son tour. Jésus s'est dit « fils de Dieu » chez les Juifs. Il se dit « roi » chez le gouverneur romain. Mais qu'est-ce que la vérité ? Pilate alors essaye de se débarrasser de ce procès en le renvoyant à Hérode. Le tétrarque de Galilée se trouve précisément à Jérusalem pour les fêtes pascales. Hérode est curieux, d'une curiosité mondaine et désireux d'un spectacle distrayant. À ces nombreuses questions, le Seigneur ne répond pas un mot. Pour s'en venger, le tétrarque le fait revêtir d'une robe de dérision. Qu'il est redoutable ce silence de Jésus. Quelle est auguste sa majesté sous ce déguisement moqueur. Hérode rate ce qui aurait pu être l'instant suprême de sa vie et son privilège étonnant, cette rencontre avec le Fils de Dieu. Pilate, en retrouvant Jésus de nouveau devant son tribunal, essaie de contenter la foule par le supplice de la flagellation. Il compte ensuite renvoyer cet homme innocent. Ce sont les soldats romains qui infligent à Jésus le terrible châtiment. Puisqu'il s'est dit roi, ils lui jettent ensuite une casaque rouge sur les épaules sanglantes, ils lui tressent une couronne avec des épines et poussent entre ses mains liées un roseau en simulacre de sceptre. C'est ainsi qu'il paraît devant la foule rassemblée pour entendre la sentence du gouverneur. Car tombé de compromission en compromission, Pilate va rendre une sentence de mort en se lavant les mains. La foule ameutée est là, insatiable, sur la place d'Allée. En cette fin de matinée, voilà l'homme, dit Pilate. Il faut songer à la nuit qui a précédé et aux allées et venues du début de cette journée. Les deux larrons sont extraits de prison. Pilate rédige l'inscription de la croix. Barabbas est libéré. Lisons maintenant dans Matthieu 27, versets 32 à 36, qui nous relate la crucifixion et la mort de Jésus.
En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, ils s'assirent là pour le garder.
En route vers le calvaire, Jésus est tellement épuisé qu'il tombe. Il faut de l'aide. on réquisitionne Simon de Cyrène qui s'en revient des champs. Pour lui, c'est la grâce de sa vie que cette rencontre inattendue sur la route, le rôle qui lui était dévolu dans la bienheureuse passion du Sauveur. Vers midi, au calvaire, Jésus est crucifié. Puis les deux larrons avec lui, celui de droite et celui de gauche, notent les quatre évangiles. On place l'inscription « Jésus de Nazareth, roi des Juifs, sur la croix » en hébreu, en latin et en grec. Finalement, dans la langue de la religion, la langue du pouvoir et la langue de la culture. Chantons ensemble « Attaché à la croix », arc-en-ciel 458.
En Jésus, j'ai placé ma confiance. Nul ami n'est meilleur que lui. Il a mis dans mon cœur l'espérance que je veux chanter aujourd'hui. Attaché, attaché.
En plein milieu du jour, les ténèbres se font sur tout le pays. La nature se trouble, le soleil se voile. L'auteur de la vie va connaître la mort. La lumière venue dans le monde n'a pas été reçue par les siens. Et voici que tombent les sept paroles de Jésus en croix. Et je les cite ici. Première parole, c'est une parole de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Deuxième parole, parole éternelle d'espérance. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Troisième parole, adressée à Marie. « Femme, voici ton fils. » Quatrième parole, adressée aux disciples, « Voici ta mère. » Cinquième parole, parole de prière, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sixième parole, double parole de fidélité à l'Écriture, « J'ai soif, tout est accompli. » Septième parole, la parole d'amour, d'abandon et de paix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et ayant incliné la tête, il rendit l'esprit vers 3 heures de l'après-midi. Chantons ensemble « Ô Jésus, ta croix domine, arc-en-ciel 449 ».
Si brisé par la souffrance, nous voulons fuir loin de toi. Tu remplis toute distance, tu nous tiens près de ta croix.
Écoutons maintenant la lecture de Matthieu 27, versets 51 à 56, qui nous parle du voile du temple qui se déchire.
À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux croyants qui étaient morts, ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu ». De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée.
Le voile du temple se déchire. Des phénomènes extraordinaires se produisent. La nature elle-même est bouleversée. Il y a une semaine exactement, Jésus arrivait chez ses amis de Béthanie.
Nous lisons Matthieu 27, versets 57 à 66. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus, et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, « Il est ressuscité des morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur dit, « Vous avez une garde. Allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. » Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Amen.
Le soir venant, Joseph d'Arimathée se présente devant Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonne que Jésus soit déjà mort. Un soldat va donner le coup de lance dans le côté du Christ. Après rapport du centurion, Pilate permet que Joseph enlève le corps du supplicié. Et comme la nuit tombe, Joseph et Nicodème descendent pieusement le corps du Seigneur et l'ensevelissent à la hâte. Des saintes femmes préparent les aromates pour l'embaumement qu'elles comptent achever après le sabbat qui est sur le point de commencer. Nous venons donc de terminer le récit qui a conduit Jésus de l'arrestation, du jugement, simulacre de jugement, jusqu'à sa crucifixion et même à son ensevelissement. Frères et sœurs en Christ, je vous propose une méditation sur 2 des 7 paroles de notre Seigneur sur la croix. Je ne manquerai pas de commenter ce qui se passe entre ces 2 paroles et ce qui a trait avec les 2 brigands qui sont à ses côtés. J'aimerais vous faire une confidence. Quand je préparais cette méditation, je me suis rendu compte que ces quelques versets qui nous rapportent la mort du Seigneur Jésus sur la croix, ce sont 6 longues heures d'agonie. C'est en recoupant les récits des évangiles, vous l'avez remarqué d'ailleurs dans la lecture que nous avons faite ici dans l'évangile selon Matthieu ou Luc, on dit que Jésus a été crucifié à midi. Mais en recoupant les récits des évangiles, nous nous rendons bien compte que Marc nous donne un détail intéressant et lui, il situe la crucifixion de Jésus à 9 heures du matin. Et Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi. Je me suis dit que nous sommes habitués à courir, même quand nous prions, méditons. Mais pourquoi sommes-nous si souvent pressés? Nous pouvons l'être même dans cette période-ci de confinement. Pourquoi sommes-nous souvent si pressés? J'ai donc décidé de méditer lentement, au rythme des paroles et des silences que m'offre le récit évangélique, en sachant qu'en courant tout le temps, je risque de surfer seulement sur la vague et passer à côté de la profondeur de richesse si grande qui concerne notre relation avec notre Seigneur. Pour moi, il a agonisé pendant 6 heures. Et moi, je serais incapable de lui tenir compagnie un peu plus qu'une heure. Non, j'ai donc fait le choix de rester un peu plus longtemps. Donc si cette méditation vous semble longue par rapport aux autres, vous pouvez tout simplement switcher ou faire autre chose. Moi, j'ai été touché par la longue agonie de 6 heures de mon Sauveur. Et j'en ai même pleuré. Je veux donc écouter même les silences que dégagent ces instants. On a l'habitude d'évoquer les 7 paroles de Jésus sur la croix. N'oublions pas qu'elles sont toutes imprégnées de silence et qu'il nous faut écouter aussi ces silences. L'évangéliste Luc est le seul à nous rapporter les quelques paroles échangées entre les 3 suppliciés de Jésus. Suivons-le pour entrer dans ce dialogue où il y a si peu de paroles et beaucoup de silence. La première parole de Jésus, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le Golgotha est en silence autour des 3 crucifiés. Ces derniers ont donc toute possibilité de se parler, en plus de la douleur qu'ils éprouvent dans leur corps. Ils sont assez proches l'un de l'autre et encore assez valides pour le faire car c'est encore le début de l'agonie. Mais il y a un silence. Jésus est le premier à parler. Et d'emblée, sa parole ne peut qu'interpeller et inviter au silence. Cette parole ne s'adresse pas aux autres crucifiés, ni à personne dans la foule. Elle est cependant dite à haute voix, avec assez de force pour que les autres suppliciés du moins l'entendent. Cette première parole est une prière. Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aucun des 2 malfaiteurs ne réagit sur le moment à cette prière. Mais elle va faire son chemin dans le cœur de chacun, dans le silence de chacun, comme nous allons nous en rendre compte grâce à la suite du récit. Celui qui aurait à répondre à cette parole de Jésus devrait être celui auquel elle s'adresse, c'est-à-dire à Dieu. Or Dieu se tait. On ne l'entendra même pas parler pendant toute cette période de crucifixion. Le silence du Golgotha après la prière de Jésus souligne donc le silence de Dieu. Dieu va-t-il répondre? Dans l'attente de cette réponse, le silence de Dieu invite chacun à garder le silence et permet à chacun de méditer et d'approfondir cette prière de Jésus. Si nous ignorons quel chemin la prière de Jésus fait dans les cœurs de tous ceux qui l'ont entendue, nous constatons que l'un des 2 malfaiteurs va être très touché par elle et qu'il va même, à partir d'elle, parcourir tout un chemin qui ne sera rien de moins qu'un extraordinaire chemin de conversion. Non seulement Jésus accompagne 2 mourants, mais il accompagne aussi l'un d'eux sur son chemin de conversion, et cela de manière tout à fait extraordinaire. Nous reviendrons tout à l'heure à cette prière du Seigneur, mais concentrons-nous quelques instants sur les 2 bandits, les 2 malfaiteurs. À côté de Jésus se trouvent donc 2 bandits, 2 malfaiteurs, bref, des gens peu recommandables. Sur une croix, on a de fortes chances de rencontrer des gens de mauvaise fréquentation. Jésus ne manifeste aucun mépris envers eux. Au contraire, durant son ministère, il n'a cessé de dire qu'il était venu pour les pécheurs. Les voici donc à ses côtés, en train de passer de ce monde vers l'autre. Tout porte à croire que Jésus, même dans ces circonstances, va poursuivre son ministère jusqu'à son dernier souffle. Et la suite ne va pas démentir ce que nous pensons. Un des brigands est sur le chemin de se convertir à l'heure de sa mort. Cela donne à réfléchir sur la mort des gens peu recommandables, des païens notoires. Voici un homme qui va au paradis alors que tout le monde le mettrait en enfer. Voici un homme qui meurt sanctifié par une parole de Jésus. Ah, nous avons donc à nous garder de juger les païens, les gens peu recommandables, les bandits notoires. Qui sait ce qu'ils deviennent au moment de leur mort? La conversion du bon larron nous montre que des cœurs peuvent, à notre insu, s'ouvrir à la foi. Des yeux peuvent s'ouvrir à la contemplation du Christ au moment de la mort. Peut-être qu'aucun disciple n'a pris la peine d'évangéliser ces deux malfaiteurs. Peut-être que personne n'a prié pour eux à l'approche de leur mort. Seul Jésus s'en est soucié, comme un berger prend soin de chacune de ses brebis et même d'une brebis perdue. Béni soit le Seigneur. Revenons maintenant à cette première parole du Seigneur. La première parole de Jésus est une prière, disions-nous. Plutôt que de s'adresser directement aux deux malfaiteurs, Jésus préfère prier devant eux et les rendre ainsi attentifs à une présence à laquelle ils ne pensaient peut-être pas, la présence de Dieu. Oui, si Jésus s'adresse à Dieu, c'est bien que Dieu est là. Jésus lui parle comme il parlerait au larron avec la même intensité de voix. Et c'est là un premier enseignement que Jésus dépose dans le cœur de ceux qu'il accompagne dans la mort. À savoir, à l'approche de la mort, il est bon de prier. Premier enseignement et premier choc aussi, car les malfaiteurs ne sont peut-être pas enclins à la prière. Peut-être même est-ce la première fois qu'ils entendent quelqu'un prier à côté d'eux. Voilà que dans leur agonie, quelqu'un ouvre pour eux le chemin de la prière dans le silence de Dieu. Jésus leur enseigne qu'on peut mourir en priant. Mais en plus, sa manière de prier et le contenu de sa prière vient parfaire l'enseignement que Jésus leur donne sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus appelle Dieu son Père. Père, dit Jésus. Dieu est-il si proche que cela? Les malfaiteurs sont en train de découvrir que pour Jésus, Dieu est si proche, même s'il demeure silencieux. Cette découverte a de quoi plonger le bon larron dans le silence. Ce n'était pas une habitude en Israël d'appeler Dieu son Père. Cela induit donc que Jésus est le Fils de celui qu'il prie. Une telle relation avec Dieu a de quoi maintenir le larron dans le silence. Il y a aussi une charge affective à appeler Dieu son Père, une relation d'amour. Les malfaiteurs n'étaient peut-être pas préparés à entendre sur un engin de supplice un mot d'amour à l'adresse de Dieu. Toujours est-il qu'ils gardent le silence après ce que vient de dire Jésus. Ils ont là de quoi méditer profondément. Dans l'oreille du larron, celui que Jésus appelle Père, Papa, celui à qui Jésus s'adresse, a pour effet de le maintenir dans un immense silence. Bien des gens vont prendre la parole après Jésus. Les chefs, les soldats, l'autre larron. Le bon larron est celui qui fait silence le plus longtemps. On le comprend. Il a tellement de quoi méditer avec ce papa. Car ne l'oublions pas, Jésus parlait araméen. Papa, auquel il était si peu préparé, lui, le larron. Sur la croix, le bon larron découvre à la fois le Père et le Fils. Le voilà placé devant un mystère infini. Son silence en est rempli. Père, pardonne-leur, dit Jésus. C'est l'amour qui pardonne. Si Jésus demande à son Père de leur pardonner, c'est que lui-même a déjà pardonné. Si en effet Jésus n'avait pas pardonné, il ne demanderait pas à Dieu de le faire. Voilà donc que le larron découvre à ses côtés la victime d'une injustice qui a pardonné et qui demande à Dieu de faire de même. Lorsqu'une victime et Dieu s'accordent pour pardonner, alors le pardon est total. Tel est le souhait de Jésus pour cette foule de coupables. Un pardon total. Faut-il que le crucifié soit débordant d'amour pour prier ainsi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, dit Jésus. S'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas demander pardon. Voilà donc que Jésus demande à Dieu un pardon que les coupables ne peuvent pas demander. Jésus demande à leur place. C'est dire aussi qu'il a pardonné, alors que personne ne lui a demandé pardon. Quel amour! Et quelle humilité aussi, car il faut assurément être humble pour pardonner avant que le pardon soit demandé. En silence, le larron est en train de découvrir ce qui transparaît du cœur de Jésus dans sa brève prière, à savoir son amour et son humilité. Père, pardonne-leur. Jésus parle du pardon à Dieu et non à la foule. Il n'adresse d'ailleurs aucun mot à la foule durant toutes ces heures d'agonie. C'est étrange. Jésus pourrait facilement haranguer le peuple du haut de la croix, dire ne serait-ce que quelques mots tant qu'il en a la force. Il pourrait clamer son innocence devant tous. Il pourrait convaincre de leur erreur ceux qui ont réclamé sa mort. Il pourrait leur annoncer qu'il leur pardonne. Et puisqu'il est plein d'amour, il pourrait faire un sermon sur l'amour. Mais Jésus ne fait rien de tout cela. Il ne prêche pas l'amour, ni quoi que ce soit d'autre, du haut de la croix. Il ne veut pas convaincre, il prie et c'est tout. Il ne prêche pas l'amour, il le vit dans son intercession et dans l'acceptation de la mort qu'il subit à cause d'eux. Tant d'amour en Jésus. Et cela pour des coupables. Il ne prie pas pour ces femmes silencieuses qui se tiennent à distance et qui ne sont coupables de rien dans cette injustice. Par contre, il prie pour ceux qui ont réclamé sa mort, pour ces assassins. Si le larron n'a pas entendu le sermon que Jésus a prononcé un jour sur une montagne de Galilée, en invitant à prier avec amour pour ses ennemis, il le voit maintenant vivre cet amour-là sur le mont Golgotha, sur une croix. Cette prière en dit pour lui plus long qu'un sermon sur une montagne. Sur la croix, Jésus porte tout son peuple dans sa prière, comme un berger porte une brebis qui s'est égarée. C'est la mission que son Père lui a confiée, et il l'accomplit jusqu'à son dernier souffle. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre dira que la mort de Jésus n'était pas une condamnation judiciaire, mais un véritable assassinat. Je le cite, « Vous l'avez tué », dira tout crûment Pierre. Puis l'apôtre ajoute, « Je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Ces coupables par ignorance ont bien sûr une bonne conscience. Ils croient faire plaisir à Dieu en débarrassant la terre d'un blasphémateur qui s'égale à Dieu en se prenant pour son fils. Ils croient bien faire en protégeant la société d'un beau parleur qui pourrait déclencher la répression romaine. La bonne conscience s'accompagne en général de bonnes intentions. Quel fossé entre cette bonne conscience et Dieu? Quel fossé alors que nous ignorons le mal que nous faisons à Dieu. Jésus comble ce fossé en demandant à Dieu notre pardon, en pardonnant notre bonne conscience, nos bonnes intentions, nos illusions, notre aveuglement. Heureux sommes-nous de recevoir du Père et du Fils leur pardon. Aujourd'hui, lorsqu'on est devant un fautif par ignorance, on s'empresse de le déculpabiliser en déplaçant la faute sur d'autres. Comprenez-le, il a grandi dans un environnement difficile. C'est la faute à ses parents qui ne lui ont pas donné tant d'amour. Pas plus l'Ancien que le Nouveau Testament ne fait cela. Pierre constate bien la culpabilité ignorée. Il la révèle et la met en avant pour inviter à la repentance et donc à la demande de pardon. Un fautif inconscient est tout de même un fautif. Sur la croix, Jésus ne cherche pas à déculpabiliser qui que ce soit. Il demande à Dieu le pardon. Prendre le chemin de la déculpabilisation, c'est une autre manière de se sauver soi-même, une autre manière de se passer de Dieu. Déculpabiliser et être déculpabilisé ne fait pas intervenir Dieu. Le pardon, lui, ne peut pas se passer de Dieu, car Dieu seul pardonne en vérité. Comme le dit l'Ancien Testament, en faisant de Dieu le seul sujet du verbe hébreu « pardonner », « salah ». Même entre les hommes, le pardon n'a pas sa véritable force s'il n'est pas appuyé, accompagné par le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu donne toute son efficacité au pardon de l'homme. Notre ami le larron, le bon larron, comme on l'appelle, comme la tradition l'appelle, il vit là dans un silence. Et dans ce silence, ce larron découvre à ses côtés un homme qui pardonne à des irresponsables et qui demande à Dieu l'appui de son pardon. Voilà en particulier tout ce que découvre le bon larron sur son chemin de conversion durant les heures de silence qui suivent la prière de Jésus. Jésus semble prier pour les pécheurs inconscients. Qu'en est-il de ceux qui sont conscients de leurs péchés? Le larron finira par poser la question à Jésus. Toi qui penses à tous les irresponsables et qui prie pour eux, toi qui les aimes au point de demander leur pardon, que fais-tu de ceux qui savent qu'ils ont fait du mal? Que fais-tu d'un malfaiteur qui se sait responsable d'un grand nombre de fautes? Jésus, dit-il, souviens-toi de moi quand tu feras justice dans ton royaume. Frères et sœurs, il est étonnant qu'un des malfaiteurs prenne le chemin de la conversion tandis que l'autre prennent celui du blasphème. N'oublions pas qu'il y a deux malfaiteurs autour de Jésus. Il y en a un qui fait ce chemin de conversion, alors que l'autre a emprunté un autre chemin du blasphème. Et tous les deux écoutent les mêmes paroles. D'où vient que l'un soit touché par la prière du Christ et l'autre pas? D'où vient que l'un entre dans l'intimité, dans l'intime communion d'amour du Père et du Fils, et l'autre pas? Eh bien, cela vient du Saint-Esprit et de nul autre. Nul autre que l'Esprit, en effet, ne peut nous faire entrer dans l'intimité du Père et du Fils, car en Dieu, l'intimité du Père et du Fils est partagée avec le Saint-Esprit. Seul l'Esprit peut nous introduire dans l'intimité trinitaire. Il s'agit là d'une de ces profondeurs de Dieu que seul l'Esprit peut sonder et nous révéler. Il n'y a pas de chemin de conversion sans le souffle de l'Esprit-Saint. Si le bon larron avance sur ce chemin-là, c'est parce qu'il est saisi par le Saint-Esprit, C'est parce qu'il est travaillé par lui, il est ouvert au Père et au Fils. C'est par l'Esprit que le bon larron peut entrer dans la prière que le Fils adresse au Père. Quant à l'autre malfaiteur, il est entraîné sur un autre chemin, celui du blasphème. Et cela jusqu'à quand? Nous n'en savons rien. Que deviendra ce blasphémateur par la suite? Comment entendra-t-il la réplique qui lui est adressée? L'échange entre le bon larron et Jésus? La dernière prière de Jésus? La remarque du centenier? Nous n'en savons rien, car ce malfaiteur se réfugie alors dans le silence. Rien ne dit si son dernier silence est habité par de nouveaux blasphèmes ou par l'Esprit Saint. Cela appartient à Dieu seul, qui peut savoir quelle aura été la fin du larron qui a blasphémé. Sans attendre le dernier jour pour la révélation du pardon plénier, le Père exauce son Fils au moment de la croix, du moins partiellement. Il exauce en ouvrant le cœur du bon larron au pardon. La conversion du bon larron, c'est le cadeau que le Père offre au Fils en signe d'exaucement. Lui qui a toujours exaucé le Fils. C'est un merveilleux miracle, plein d'un amour infini. Dans ce larron, le Père donne au Fils un frère pour mourir avec lui, à côté de lui. Le bon larron lui dit « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Eh bien, Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Jusqu'à présent, sur la croix, Jésus n'a répondu à personne. Mais cette fois, il répond. Miracle pour le larron qui a osé s'adresser au roi. Le roi lui répond. Et le fait est que la réponse de Jésus est une réponse de roi, dite avec l'autorité d'un roi. En vérité, je te le dis. Une parole introduite ainsi sonne comme un décret. Dans la bouche du roi, c'est un serment royal. Jésus ne tarde pas à répondre. Il répond tout de suite, avant que la mort fasse son œuvre, pour que le larron soit porté à travers la mort par cette réponse. La réponse de Jésus ne nie pas la mort, elle la dépasse. Devant un cœur qui s'est ouvert à lui, Jésus ouvre la porte du paradis. Il est plus facile d'ouvrir la porte du paradis que d'ouvrir la porte du cœur de ceux qui blasphèment. Toi qui m'ouvres ton cœur, voici j'ouvre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Puisse le Seigneur nous aider à méditer, à reméditer et à prier cette première parole et cette deuxième parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui même, je te dis, tu seras avec moi au paradis. Amen. En reconnaissance à toute cette œuvre merveilleuse et grandiose et efficace, je vous invite à chanter ensemble « Rédempteur admirable, arc-en-ciel 448 ».
Traité comme un coupable,
Recevons, avant de nous quitter, de nous séparer, la bénédiction de la part de notre Seigneur, notre Rédempteur. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que nous avions crucifié. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Rendez-vous donc dimanche pour la célébration de la fête de Pâques qui nous annonce le Christ ressuscité. À dimanche, Dieu voulant.